Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un gouvernement qui arrive en annonçant qu'il va vendre des participations dans des entreprises privées et qui le fait. Mais c'est aussi un gouvernement qui nationalise temporairement des chantiers navals en passe d'être vendu à un acheteur italien avant de renégocier le contrat avec cet acheteur pour lui laisser la plus grosse part et le contrôle, mais tout en restant en capital. C'est un gouvernement qui se veut inflexible pour contrôler l'emploi dans les filiales françaises d'un géant finlandais des télécommunications. Mais c'est aussi un gouvernement qui laisse, au nom de l'industrie européenne, une société allemande prendre la majorité dans un nouveau champion de la construction ferroviaire qui produit le TGV. STI, Nokia, Alstom, Siemens, on a parfois du mal à suivre le fil conducteur de la politique industrielle française ces dernières semaines. Quelle est la place de l'État dans les entreprises et en particulier dans les entreprises stratégiques? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, nous recevons aujourd'hui deux invités en studio. Christophe Rameau, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris 1 et membre du collectif Les économistes atterrés. Et Jean-Hervé Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine et président du Cercle des économistes. Alors j'en parlais à l'instant, vente de participation, accord sur STX qui est annoncé au moment où on parle, Nokia, Alstom, question posée de but en blanc, y a-t-il une logique, une vraie politique industrielle, un fil conducteur là-dedans, Christophe Rameau?
Écoutez, oui, il y a le résultat d'une logique, libérale, en fait, qu'on applique de façon dogmatique, particulièrement en France, hein, depuis une trentaine d'années. Et donc là, on arrive au bout de cette logique, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre deux fleurons de l'industrie, Alstom d'un côté, donc les TGV, les chantiers de l'Atlantique de l'autre. Alors pourquoi le logique libérale, si vous voulez, à plein niveau, hein, il faut savoir que ces deux groupes, à un moment donné, ces deux entreprises appartenaient à un moment donné, étaient dans la même structure qui était la CGE, d'accord, et qu'on a démantelé, on a véritablement démantelé sur le thème, avec un argument de la finance, pour servir la finance, sur le thème il faut maintenant séparer, il faut plus de conglomérats, il faut des entités homogènes qu'on peut liquider rapidement sur les marchés financiers, et puis tout ça, ça sera bon pour la croissance, l'innovation, l'emploi.
Est-ce qu'il y a pas une logique de métier quand même?
Non mais résultat des courses, Alstom est aujourd'hui repris par un conglomérat, Siemens, qui intervient dans plein de domaines, d'accord. Et puis, on a sur les chantiers de l'Atlantique, on est en train de faire sur les chantiers de l'Atlantique et sur Alstom, en fait, ce qu'on a fait sur Airbus, c'est qu'on ne fait pas là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur Airbus? On a une véritable, entreprise européenne, qui est avec une structure de capital paritaire, où les États sont présents. Les États ont gardé la main. C'est-à-dire que tant la France que l'Allemagne ont chacun 11% de participation dans Airbus. Eh bien, ce qu'aurait dû faire ce gouvernement pour maintenir une stratégie industrielle sur le long terme, c'est exiger que sur STX, il y ait le maintien d'une participation et que, même chose, sur Alstom, il y ait le maintien d'une participation pour une stratégie de long terme.
Jean-Hervé Lorenzi, est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'on est vraiment dans une logique libérale?
Il y a pas... Je suis d'accord. Après, on va parler, évoquer les solutions qu'on aurait pu mettre en œuvre. Je suis assez d'accord. Je trouve qu'il n'y a aucune logique dans cette affaire. C'est totalement paradoxal. C'est une politique de gribouille, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, on va reprendre les deux cas, parce qu'ils sont extraordinaires. STX, c'est des chantiers... Il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années.
Les chantiers de Saint-Nazaire pour
chantier de Saint-Nazaire. Donc, c'est les gens d'un chantier où on fait des bateaux. Et à un moment, il a été prévu qu'on supprime toute construction navale en France. Et, en réalité, on s'est dit, tout ça, c'est maintenant les Coréens. C'est ailleurs qu'il faut le faire. La preuve est faite que ce qui apparaissait comme une vérité il y a 20 ans ne l'est pas. Et je trouve que pour une petite centaine de millions d'euros, c'est très curieux de se dire « Non, mais même au-delà de ça, c'est pas l'État, c'est qu'il n'y ait pas de financement en France pour monter cette opération. » De l'autre côté, là où je rejoins Christophe, dans son histoire, parce que tout ça, c'est des histoires de longues. Le groupe CGE,
ouais.
le groupe CGE, en fait, avait en réalité à un moment, il a eu démantelé, mais... Il restait Alstom, qui avait une partie, comme vous en souvenez, d'alternateurs, de matériel, de gros, d'énormes machines, de turbines.
Les turbines qui étaient rachetées par General Electric.
Et lorsque, parce que c'est la énième fois que le problème s'est trouvé posé de rapprocher Alstom de Siemens, et l'idée qui avait prévalu il y a 10 ans, c'était que Siemens, en réalité, reprenez les alternateurs, les turbines, mais ce que General Electric a fait, et laissez le leadership pour les TGV, parce qu'il se trouve que les TGV, c'est les pales foutues. Donc, au fond, tout ça,
donc,
rétrospectivement, il n'y a pas de logique, il y a une sorte de mauvaise gestion industrielle de notre pays depuis maintenant une vingtaine d'années, qui fait que, comme le raconte notre petit camarade Patrick Artus, à juste titre, nous sommes le pays en Europe, dans l'Union européenne, qui a sa part de l'industrie dans son PIB, qui est le plus faible, à l'exception de la Grèce. Vous reconnaîtrez que c'est pas un succès exceptionnel. C'est une industrie qui part un peu dans tous les sens. Si seulement c'était libéral, cher Christophe, ce serait formidable. Ça l'est pas, c'est surtout, c'est un peu du, depuis 20 ans, du n'importe quoi. Je rappelle juste que l'affaire de la Compagnie Générale d'Électricité, c'est un président qui s'appelait Tchuruk, qui avait dit, je vais faire des industries sans usine. Vous imaginez, le type, quelques années après, tout ça a explosé, Nokia a récupéré, maintenant, on voit Alcatel qui disparaît, SCX est vendu aux Italiens, Alstom est vendu, a été décomposé en deux, vendu à General Electric. Tout ça, c'est au-delà même de, j'allais dire, des décisions de l'instant, c'est surtout l'impression que on a, véritablement manqué dans notre pays de vision industrielle, incroyable. Et là, je dois dire, je suis pas complètement en désaccord avec ce que dit Christophe, mais quand même un peu, c'est surtout, si seulement c'était du bon libéralisme, mais c'est du très très mauvais, la très mauvaise gestion.
Christophe Rameau, une petite réaction, là, vous êtes...
Non, mais il faut donner de la cohérence.
Politique de gribouille, c'est ce qui a été dit.
Oui, certes, oui, bien sûr.
Et vous parlez de cohérence.
Politique de gribouille,
vraiment.
Par exemple, la politique de gribouille, c'est quand même hallucinant, là, sur l'affaire de, comment dire, sur l'affaire d'Alstom, hein. Mm-hmm. L'État avait la possibilité de faire, jusqu'au 17 octobre, une clause de rachat d'actions qui lui permettait, dans le cadre de la fusion avec Siemens, de faire 400 millions de plus-value. D'accord? Finalement, c'est Bouygues qui va les encaisser. Donc, politique de gribouille complète. Mais revenons sur le fond.
Oui, parce qu'il y a un pacte d'actionnaires au sein d'Alstom qui est un peu compliqué. C'est Bouygues qui détient des...
Jean-Hervé Lorenzi, il y a une cohérence dans tout ça. Quand Tchuruk, vous avez raison, en 2001, déclare qu'on va construire des entreprises sans usine, quel est son projet? C'est le projet de la finance. C'est l'idée que maintenant on construit des holdings financières. Il n'y aura plus qu'une holding financière qui part et autrement, il y aura des sous-traitants. Il y aura des sous-traitants et il y a l'idée que la finance est un bon guide pour mener les politiques industrielles. Ce que je soutiens, c'est qu'au contraire, on a des élites en France, des élites économiques, des élites en matière de direction d'entreprise, en matière patronale, qui sont les bisounours de la mondialisation, bisounours par conversion à l'ultralibéralisme. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a partout dans le monde? Mais même Emmanuel Macron hier disait. Il faut construire une souveraineté européenne. Mais il n'y a pas de souveraineté européenne. Dans tous les pays du monde, c'est la première caractéristique de la mondialisation. Comme dit un philosophe, je me permets de faire un écart, Marcel Gaucher, la première caractéristique de la mondialisation, c'est que nous vivons partout dans des états-nations. Tous les peuples du monde vivent dans les états-nations. Et pour la première fois d'ailleurs, depuis des siècles et des millénaires, aucun d'entre eux n'a de volonté impériale. Il y a des problèmes de frontières et de ça. Mais ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire que nous vivons dans des économies mixtes. Et nous sommes les grands naïfs. Nous avons baissé la garde aux États-Unis, entre les dépenses du Pentagone d'un côté et le Buy American Act de l'autre, je vous assure que l'intervention publique en matière industrielle est là. En Chine, le gros concurrent d'Alstom et de Siemens.
CRRC,
c'est quoi? C'est une entreprise publique. Et donc,
on est naïf.
Je suis assez d'accord avec la deuxième partie. Elle me paraît en léger décalage par rapport à la première intervention. Parce que soit on est dans un monde ultralibéral, et à ce moment-là, il se trouve, c'est vrai qu'on est très mauvais, mais cet ultralibéralisme, ça réussit à ceux qui nous rachètent. Puisque Siemens, ça existe. Donc, au fond, ce sont des entreprises qui ne sont pas exclusivement financières. Soit on est dans un univers que je crois plutôt de difficulté de la société française à manager ce qui a été sa force industrielle, puisqu'on a été très fort en matière industrielle, et dans les faits, depuis 20 ans, ça part par morceaux, mais c'est pas de l'ultralibéralisme, c'est la mauvaise gestion de l'opération. Et quant à dire... tout est sous la main de la finance, c'est pour partie vrai. Il se trouve que ça marche bien dans certains cas et pas dans d'autres. Ce qui me frappe, c'est plutôt la différence de résultats entre la France Et mettons l'Allemagne.
Mais l'Allemagne, mais là je vous interromps. L'Allemagne, il y a une différence colossale entre les entreprises allemandes, les grandes entreprises allemandes et les grandes entreprises françaises. Les grandes entreprises allemandes, dans les grandes entreprises allemandes, de plus de 5000 salariés, les salariés, vous n'êtes pas sans le savoir, ont la moitié des voix au conseil de surveillance. Et c'est le conseil de surveillance qui nomme le directoire, c'est-à-dire la direction de l'entreprise. Ça oblige ce compromis social-là, qui respecte les salariés, à avoir une stratégie de long terme, une stratégie tournée vers l'investissement. Et l'investissement, cher Jean-Yves Rolenzi, c'est quoi? C'est une stratégie de long terme. On n'achète pas des machines. On n'embauche pas des salariés pour s'en défaire le lendemain. Or, la finance, elle peut, du point de vue de sa logique interne, vous pouvez acheter le matin et revendre dans la nanoseconde. Ça n'a pas de sens d'un point de vue industriel. Or, en France, nous avons la plupart, pas toutes, mais les entreprises du CAC 40 sont les entreprises qui délocalisent le plus, qui sont le plus soumises aux dictats de la finance, et donc on paye cela aujourd'hui. L'État a laissé la main à la finance en France, beaucoup plus qu'en Allemagne, et nous sommes en train de payer cela.
Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Christophe Rameau, puisque vous parliez d'investissement, et je vous pose la question, Jean-Hervé Lorenzi, puisque vous parliez de politique de gribouille, du point de vue de l'attractivité de la France. C'est quoi le message qui est envoyé aux investisseurs étrangers quand on décide un jour qu'on va garder Alstom, et puis 6 mois plus tard, ou un an plus tard, qu'on le revend aux Allemands? C'est quoi le message qui est envoyé?
Alors, c'est un peu compliqué parce que s'y mêlent beaucoup de choses dans ce qu'on appelle l'attractivité et la perception au fond, pour des investisseurs internationaux, d'avoir envie de participer ou d'aider. Ou on donne un message aujourd'hui un peu compliqué, je reconnais. Enfin, non seulement je reconnais, mais je le soutiens. Mais par ailleurs, la perception de l'attractivité de la France, elle est liée à bien d'autres choses. Elle est liée à l'idée, souvent à tort, qu'il y a du positif, c'est les infrastructures, la formation, la productivité. Il y a du négatif, c'est la fiscalité et le
poids des syndicats, par exemple.
Voilà. Donc, ne mélangeons pas toutes les choses, parce qu'au fond, il y a le système social français qui, à tort ou à raison, a transmis une image qui était moyenne de ce qu'est la réalité française. Et puis, il y a par ailleurs le fait que notre trajectoire a été quand même pas top, et notamment dans l'industrie, parce que c'est vrai, on a très peu investi, parce que nos élites n'ont pas vraiment cru à l'idée que c'était, au fond, quelque chose de très stimulant de poursuivre dans l'industrie, de fabriquer. Il y a toute une espèce de psychologie qui est quand même complexe et qui nous a touché plus, nous, en France, que dans la plupart des pays européens.
C'est quoi une bonne politique industrielle à l'échelle de l'État aujourd'hui? Ce serait quoi? Est-ce que d'ailleurs l'État, c'est la bonne échelle?
Tout à fait, en partie. C'est-à-dire que l'État, ça donne à la fois la force de frappe financière, et ça donne la possibilité d'avoir une stratégie de long terme. Et donc, dans tous les secteurs qui sont, je dis pas qu'il faut nationaliser tout, mais dans les secteurs qui sont ce qu'on appelle des monopoles naturels. Donc, c'était valable hier pour les sociétés d'autoroutes, qu'on a privatisé. L'État s'est privé de l'ordre de 10 milliards d'euros en privatisant, en laissant ces recettes à l'État. Donc, au privé. C'est le cas pour tout ce qui concerne le transport. Là, on est en présence de monopoles naturels, et donc il y a besoin d'une intervention publique, il y a besoin de ce qu'on appelle une véritable politique industrielle, et ça suppose d'aller à l'encontre de deux idées complètement reçues. D'abord, l'idée que l'industrie, c'est pas important. On vit dans les sociétés post-industrielles, c'est faux. L'industrie, encore aujourd'hui en France, malgré les chiffres que vous avez tout à fait légitimement évoqués au début, ça reste très important.
C'est pas l'idée répandue, notamment dans les pays qui réussissent,
ça reste
comme
très important. Mais non, mais vous savez, l'industrie au sens strict, c'est 14% des emplois. Mais il faut ajouter le bâtiment, qui n'est pas loin de tout ça. Une bonne partie du commerce, du transport, vit de l'industrie, des services aux entreprises, vit de l'industrie. Donc c'est très important. Et deuxième idée fausse, c'est l'idée que maintenant qu'il n'y aurait plus que des PME. Mais non, dans l'emploi salarié privé, je mets de côté l'État, la fonction publique, mais dans l'emploi salarié privé, vous avez 30% des salariés aujourd'hui qui travaillent dans les entreprises de plus de 5000 salariés en France. Vous en avez 20% supplémentaires qui travaillent dans les entreprises de taille intermédiaire, compris entre 250 et 5000 salariés. Tout ça, ça fait plus de la moitié des salariés. Donc l'idée que maintenant, il n'y a plus que des start-up avec des petits salariés, des auto-entrepreneurs, tout ça, c'est totalement stupide et c'est totalement erroné par rapport à... Alors, et ça donne malheureusement le ton. Ça empêche de faire ce qui devrait être fait, c'est-à-dire avoir une véritable... Il n'est pas trop tard pour le faire. Alors après, il y a d'autres problèmes macroéconomiques, qui est que nous avons un euro trop fort pour nous et l'Allemagne bénéficie d'un euro trop faible pour elle. Donc c'est un problème macroéconomique, mais c'est un autre débat.
Alors c'est un problème monétaire et non pas directement donc, industriel. Jean-Hervé Lorenzi.
Je rejoins l'idée que c'est pas trop tard, que on peut très bien avoir une vraie politique industrielle. C'est quoi une politique industrielle? C'est évidemment tout ce qui concerne l'environnement, la formation. Vous savez que on a quand même un chiffre. On sait que par exemple il va manquer peut-être plusieurs dizaines de milliers de gens qui vont travailler dans le secteur du numérique. On le sait. Est-ce que on s'agit pour essayer de pousser les étudiants à faire ça? À ma connaissance, non. J'espère qu'on va changer, mais à ma connaissance, non. Il y a tout ce qui est l'environnement, et puis il y a au fond le fait de déterminer des secteurs qui sont des secteurs très importants, de les favoriser.
Définir des priorités quelque part.
Définir. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, ce que Christophe a dit sur les États-Unis. Les États-Unis continuent massivement à aider leur industrie. Les Allemands sont d'ailleurs eux-mêmes. Vous l'avez vu, quand une entreprise chinoise a racheté une grosse boîte de machines outils, ils n'étaient pas contents. Donc, ça existe, le nationalisme économique et le nationalisme industriel. Nous avons réellement depuis, c'est long, hein, depuis longtemps. C'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui qui est finalement important. C'est ce qui est passé depuis 20 ans. Considérer que c'était pas le sujet, je suis d'accord avec les deux idées, que l'industrie c'était pas important et que la PME c'est le paradis sur Terre. Bon, je veux dire, c'est deux visions trop simpliste, et je pense qu'il faut peut-être, alors je fais une suggestion ce soir.
Ah.
Je pense que ce serait pas absurde de créer un ministère de l'industrie.
Ah, vous avez recréé un ministère de l'industrie.
Oui, vous ne vous avez pas échappé que.
On a deux ministres en charge de l'économie, il n'y a pas de portefeuille spécifique à l'industrie.
Or, c'est un truc très à part. Mmh. Alors, je veux bien que tel ou tel ministre désormais se considère comme le grand spécialiste de l'industrie, mais dans les faits, c'est pas obligatoirement stupide d'avoir des gens dont c'est la spécialité et l'envie. Parce qu'il faut avoir envie. Il faut avoir envie de se dire, j'ai mon Alstom, c'est moi qui vais le pousser, c'est moi qui vais racheter Siemens.
Je vais poser une question, Christophe Rameau, qui peut paraître iconoclaste après 20 ans ou 25 ans de libéralisme. Est-ce qu'il faut revenir à une certaine forme de planification?
Bien sûr, il faut revenir. Nous vivons dans des économies mixtes. Il faut l'accepter. Nous souffrons aujourd'hui dans tous les domaines du fait que nous n'acceptons pas cela. Économie mixte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, c'est le bilan du XXe siècle. Bien sûr qu'il faut l'initiative privée. Personne ne remet ça en cause. Mais il faut aussi accepter que, eh bien, il y a des domaines que le marché ne sait pas faire parce que le tout n'est pas réductible au jeu des parties. L'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Donc, il y a besoin d'une puissance publique pour porter cet intérêt général. Et donc, c'est valable dans tous les domaines. C'est valable en matière de protection sociale, en matière de droit du travail. On est en plein dedans en ce moment. C'est valable en matière de politique industrielle. Il faut réhabiliter des économies mixtes avec du privé, mais aussi l'État social, entendu au sens large, dont son volet politique industrielle.
Alors, les critères pour l'intervention de l'État, c'est quoi? D'abord, les finances de l'État, il faut avoir l'argent peut-être. L'emploi, l'aspect stratégique des entreprises, Jean-Hervé Lorenzi?
Moi, je pense que je vais le mettre un peu dans l'ordre inverse. Ouais. Je mets l'intérêt stratégique. Je veux dire, ce qui compte, c'est quand STX, par exemple, quelques dizaines de personnes ont pensé qu'on pouvait continuer à fabriquer des paquebots et qu'ils ont développé ça alors que ça paraissait totalement impossible.
Et ça marche vécu, maintenant. Ouais.
Et que ils sont leaders sur le marché mondial. Vous dites que rien n'est jamais écrit dans l'histoire. Donc vous pouvez, il y a une espèce d'envie de faire ça. Il y a quand même il y a un problème de psychologie collective qu'il faut un peu le goût de fabriquer, le goût de penser, le goût de la technologie. Tout ça, c'est quelque chose qui a habité la société française pendant en tout cas deux siècles et qui s'est un peu évaporé. Et puis il faut c'est l'emploi évidemment parce que c'est la vie des gens. Et puis derrière, bah oui, il y a la finance, mais il y a beaucoup d'argent et en fait il y a beaucoup d'argent qui, comme vous le savez, ne va pas directement financer ni l'économie et a fortiori pas l'industrie.
Vous avez 20 secondes, Christophe Rameau, pour ajouter un mot, si vous voulez.
Là, le problème, c'est que le gouvernement s'est lancé dans une logique de privatisation. Hein. C'est-à-dire qu'on a 100 milliards aujourd'hui de participation publique dans les entreprises. Et là, l'objectif affiché par le gouvernement, par Emmanuel Macron dès sa campagne, c'était d'abaisser de l'ordre de 10 à 20 milliards ces participations. C'est totalement... Alors, c'est stupide, il faut savoir que, comment dire, on va se priver, y compris de recettes. Hein, on va peut-être privatiser la Française des Jeux alors que ça offre des recettes à l'État. C'est
beaucoup, donc beaucoup d'argent.
C'est des gains à court terme, absolument, pour des pertes à long terme.
Merci Christophe Rameau, merci Jean-Hervé et Lorenzi d'être venus participer à ce débat. Merci à Florence Ponce qui l'a préparé, à Valentin Vanner qui était à la réalisation. Prochain débat, demain, même heure, même endroit.